VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. La Cour constitutionnelle du Mali a demandé mercredi au gouvernement malien d'apporter des corrections au projet de révision de la Constitution qui doit être soumis à référendum, l'obligeant ainsi à renvoyer le projet devant les députés. Dans son arrêt rendu ce mercredi, la Cour a accepté la requête de l'opposition malienne sur certains articles du projet. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU estime que la détention au Burkina Faso de Djibril Bassolé, emprisonné depuis plusieurs mois, est arbitraire. Le groupe de travail sur la détention du Haut Commissariat déclare que l'emprisonnement de Djibril Bassolé viole le droit international. Il demande alors la libération immédiate de l'ex-proche du président déchu, Blaise Compaoré. Il pourrait ainsi réclamer la réparation du tort qui lui a été fait. Ancien chef de la diplomatie burkinabé et général de gendarmerie, Djibril Bassolé a été arrêté le 29 septembre 2015 pour son rôle présumé dans le putsch manqué contre le régime de la transition. Au Niger, une vingtaine d'associations de journalistes protestent contre l'incarcération du journaliste Ali Soumana en violation de la loi nigérienne sur la presse. Ali Soumana, fondateur de l'hebdomadaire privé Le Courrier, est poursuivi pour soustraction frauduleuse d'une pièce sur une bataille judiciaire depuis 2012 entre le Niger et une société libanaise. Il a été écroué lundi dernier après plusieurs jours de garde à vue. En juin 2016, Ali Soumana et Moussa Dodo, le directeur du Courrier, avaient été déjà écroués puis condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Ils avaient publié des documents relatifs à des fraudes à un concours pour devenir fonctionnaires impliquant d'importantes personnalités. La Maison de la Presse, qui regroupe une vingtaine d'associations, proteste contre le non-respect de la loi du 4 juin 2010 et apporte son soutien ferme à Ali Soumana. Le collectif s'inquiète aussi des harcèlements et pressions exercées sur les journalistes dans le cadre de leur travail au Niger. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est de la Libye, a annoncé mercredi la libération totale de la ville de Benghazi des djihadistes après plus de 3 ans de combats meurtriers. Au cours du printemps 2014, le maréchal Haftar avait lancé une opération qu'il a appelée « Dignité » pour reprendre la ville de Benghazi, bastion de la révolution libyenne de 2011, qui était alors tombée aux mains des djihadistes. La Libye est livrée au chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, il est 11h03. Le président zambien Edgar Lungu a sollicité mercredi l'instauration de l'état d'urgence après une série d'incendies criminels destinés, selon lui, à déstabiliser le pays. Nouvelle étape des tensions qu'il oppose à ses adversaires politiques. Cette décision, qui doit être soumise au Parlement pour approbation, intervient après plusieurs mois de fortes tensions entre le régime de M. Lungu et ses adversaires qu'il accuse de dérives autoritaires. Ces crispations ont débuté il y a quelques mois. Ces crispations ont débuté en avril avec l'incarcération du chef du principal parti d'opposition, Hakainde Hichilema, accusé d'avoir tenté d'entraver le passage du convoi présidentiel. Poursuivi pour trahison, un crime passible de la mort, M. Hichilema est toujours incarcéré dans une prison de haute sécurité de l'extrême nord du pays. La Cour pénale internationale, la CPI, doit se prononcer aujourd'hui sur la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud pour avoir refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar El-Béchir, poursuivi pour génocide au Darfour. Les juges devront décider si l'Afrique du Sud, pays signateur du statut de Rome, traité fondateur de la CPI, a manqué à ses obligations en permettant à l'avion du président Béchir de décoller d'une base militaire. Le gouvernement sud-africain, qui avait l'occasion de l'arrêter, a choisi de ne pas le faire, avait affirmé l'accusation en avril devant la Cour de la Haye. Or, selon les avocats de Pretoria, il n'était pas du devoir de l'Afrique du Sud, au terme du droit international, d'arrêter le chef en exercice d'un État non membre de la Cour, comme M. Béchir. Et toujours en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a lancé hier un appel à l'unité du Congrès national africain, le parti au pouvoir, agité par de graves divisions qui menacent de lui faire perdre le pouvoir qu'il détient depuis la fin de l'apartheid. Jacob Zuma a demandé, après les 5 jours de conférence de l'ANC à Soweto, de mettre un terme aux dissensions. Son parti est très affaibli par plusieurs scandales que traîne le président sud-africain. L'ANC doit élire en décembre le successeur de M. Zuma à sa tête pour préparer le scrutin de 2019. Les deux principaux prétendants sont l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, réputé modéré et proche des milieux d'affaires, et l'ex-patronne de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne épouse de Jacob Zuma. En République démocratique du Congo, les affrontements entre une milice et l'armée congolaise au sud Kivu ont fait 12 morts selon un bilan annoncé hier par l'armée. Le capitaine Dieudonné Kasereka, le porte-parole adjoint de l'armée au sud Kivu, a dit qu'il y a eu 2 soldats tués, 9 maïmaï et 1 civil tué par balles perdues. Et selon lui, 4 maïmaï ont été capturés et 5 armes lourdes saisies après des combats entre les maïmaï Yakutumba et les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous écoutez VOA Afrique, il est 11h06. Les États-Unis se sont dit prêts mercredi à travailler avec la Russie pour établir des mécanismes communs en Syrie comme des zones d'exclusion aérienne, a annoncé le secrétaire d'État américain Rex Tillerson dans un communiqué. Si nos deux pays travaillent ensemble pour établir la stabilité sur le terrain, cela posera des fondations pour une avancée vers un accord sur l'avenir politique de la Syrie, a-t-il notamment ajouté. La déclaration du chef de la diplomatie américaine intervient avant une rencontre vendredi entre les présidents russes et américains en marge du G20 qui s'ouvre à Hambourg en Allemagne. Les États-Unis soutenus par la France vont proposer à l'ONU de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord après le lancement historique par Pyongyang d'un missile intercontinental, mais la Russie a déjà prévenu qu'elle s'y opposait. L'essai de missile intercontinental qui pourrait atteindre l'Alaska, selon les experts auxquels Séoul et Washington ont répliqué en simulant une attaque du régime communiste, constitue une claire et nette escalade militaire de la Corée du Nord, a déclaré mercredi Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni d'urgence. Au moins 15 personnes ont été tuées mercredi lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des délinquants présumés dans l'état de Chihuahua, dans le nord du Mexique. Selon les autorités locales, les affrontements font suite à une fusillade qui a éclaté entre 2 groupes criminels dans la matinée à Las Varas, une localité située dans une zone montagneuse isolée, ont expliqué à l'AFP les autorités judiciaires de l'État. Le Mexique a enregistré en main un record d'homicides avec 2186 meurtres. Selon des données officielles, le chiffre le plus élevé depuis la création de ce système de recensement il y a 20 ans. Arrivé mercredi soir à Varsovie, Donald Trump a entamé une visite de première importance en Europe où il participera au sommet du G20 à Hambourg, avec au programme une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine et aussi le président chinois Xi Jinping. Le président des États-Unis, accompagné de sa femme Melania, de sa fille Ivanka et de son gendre Jared Kushner, commence donc par la Pologne, un pays pro-américain. Riyad et ses alliés ont déploré mercredi, à l'issue d'une réunion au Caire, la réponse négative du Qatar à leurs conditions pour mettre fin à la crise dans le Golfe et annoncer le maintien de leurs sanctions contre Doha. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu il y a un mois avec ce petit émirat riche en gaz qu'ils accusent de soutenir le terrorisme et d'entretenir des relations trop étroites avec l'Iran, grand rival de Riyad au Moyen-Orient. Et le Parlement vénézuélien, contrôlé par l'opposition, a été évacué mercredi soir après 9 heures de siège par des manifestants favorables au président Nicolas Maduro, a constaté l'AFP sur place. Les députés, journalistes et employés séquestrés dans l'Assemblée, dans le centre de Caracas, après l'irruption dans la matinée d'une centaine de militants favorables au gouvernement Chavez, sont pu sortir en fin d'après-midi après la levée du blocus organisé par les manifestants. Merci de nous avoir suivis. Ce journal tire à sa fin. Le prochain vous sera présenté dans environ 50 minutes par Henri Francis. Toutes nos excuses pour les difficultés techniques auxquelles nous avons été confrontés. Nos serveurs sont tous bloqués depuis ce matin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.